Le marché d'échange est un marché où les monnaies nationales s'échangent entre elles. Le prix d'une monnaie dans une autre est son taux de change. Au moment où cette séquence fut enregistrée, le taux de change euro-dollar était de 1 euro vaut 1,17819 dollars. Cinq chiffres après la virgule et cela change chaque milliseconde. Seules les banques interviennent sur le marché des changes, et parmi elles, naturellement, les banques centrales. Tout autre acteur économique, même la plus grande firme globale, passe par sa banque pour acheter ou vendre sa monnaie ou toute autre monnaie qu'il possède. Sur les marchés d'échange, les produits sont parfaitement définis, ce sont des monnaies. Le nombre d'acteurs est très grand. Le marché est extrêmement concurrentiel. Il existe de plus toute une série d'instruments dérivés, des swaps, des options, sur des échéances parfois très longues, plusieurs années. Ce sont de loin, de très loin, les marchés les plus importants de la planète, puisque toute opération de commerce international et tout mouvement de capitaux à travers les frontières suppose au moins une opération de change et plusieurs opérations de couverture qui offrent à la vente et à l'achat une monnaie nationale sur le marché d'échange. La monnaie nationale est offerte à la vente par tous ceux qui ont besoin d'acheter une monnaie étrangère, soit pour se procurer des biens et services ou des titres à l'étranger. Donc par tous les importateurs résidant dans le territoire et par tous ceux qui, sur le territoire, veulent acheter des titres libellés dans une autre monnaie et émis à l'étranger. Soit tous ceux qui font des virements d'un compte courant en euros à leur banque locale à un compte courant en dollars à leur banque américaine. Et réciproquement, les acheteurs de la monnaie nationale sur le marché d'échange sont ceux qui veulent se procurer des biens et services dans le territoire, donc les exportations, et des titres émis en euros par les résidents du territoire, ou qui veulent mettre cette monnaie nationale sur leur compte de réserve. Le taux de change d'une monnaie contre les autres est donc fixé quasiment en continu par la confrontation des offres et demandes de cette monnaie. Dans ces conditions, une banque centrale peut certes influencer l'évolution du taux de change de sa monnaie. Elle peut le faire de deux manières. La première est d'intervenir elle-même sur le marché d'échange pour vendre ou acheter sa monnaie. Vendre sa monnaie lui est extrêmement facile puisqu'il suffit, comme toute banque, qu'elle la crée. Mais pour acheter sa monnaie, il faut qu'elle ait au préalable constitué des réserves en devises, ou alors qu'elle se fasse prêter des devises par la banque centrale qui émet cette devise. Le second mode d'action d'une banque centrale sur le taux de change est de modifier son taux d'intervention sur le marché monétaire. Par exemple, en relevant ce taux, en le faisant passer de 2 à 2,5%, la Banque centrale engendre une augmentation de tous les taux d'intérêt dans le territoire. Ce qui, toute chose égale par ailleurs, doit attirer des capitaux dans le territoire, puisque les titres de ce territoire deviennent relativement plus attirants, parce que leur rendement s'améliore. Et donc, engendrer une demande supplémentaire de monnaie pour acheter ces titres. Et par conséquent, l'appréciation de cette monnaie. Mais quel est donc, sans intervention des banques centrales, le taux de change qui équilibre les monnaies de deux territoires? C'est aujourd'hui une question très complexe. En effet, avec la globalisation financière, un territoire peut vivre aujourd'hui durablement en déficit des opérations courantes s'il importe en permanence de l'épargne de l'étranger. Ou réciproquement, un territoire peut vivre durablement en excédant des transactions courantes, comme la Chine depuis 30 ans, si le territoire exporte en permanence de l'épargne à l'étranger. Néanmoins, on peut faire une distinction parmi les capitaux entre les titres financiers très liquides et les capitaux qui sont relativement stables, comme les investissements directs, la construction d'usines ou la création de joint ventures à l'étranger. Quand on a ouvert une filiale et construit des usines dans un pays, on ne les revend pas pour rapatrier le tout en capital sans raison importante. On considère donc aujourd'hui que le taux de change d'équilibre entre deux zones monétaires est celui qui équilibre la somme de la balance des transactions courantes et de la balance des capitaux stables. Les flux de capitaux placés dans des instruments très liquides, et en particulier les capitaux monétaires, qui sont par définition les plus liquides, sont beaucoup plus mobiles et font donc osciller le taux de change autour de cette valeur d'équilibre fondamental, mais très difficile à déterminer, car comment déterminer les capitaux stables? Ce qu'il faut retenir pour finir et faire le lien avec le chapitre précédent, c'est que lorsque la circulation des marchandises et des capitaux est libre, le nombre d'acteurs concernés et le volume des transactions qu'ils ont le droit d'effectuer et qu'ils effectuent sur les marchés d'échange est tel qu'une banque centrale peut certes influencer quelque peu l'évolution du change de sa monnaie, mais certainement pas le décider. Elle ne peut en particulier jamais s'opposer à un très fort courant de vente ou d'achat privé motivé par un basculement des anticipations dominantes des acteurs économiques. Pour décider et permettre à sa banque centrale de tenir le taux de change qu'il aurait choisi, un gouvernement devrait limiter la circulation des capitaux et donc le volume possible des opérations privées sur sa monnaie. Nous le verrons au chapitre suivant, c'est l'une des expressions du triangle d'incompatibilité de Mundell.